Vous écoutez France Culture.
La chaîne montagneuse El Sangre de Cristo est un des paysages les plus primitifs et reculés des États-Unis. Dans un ranch isolé, les plus grands scientifiques du monde se réunissent fébrilement par une fraîche matinée. Non loin de là, dans la pénombre, un objet est suspendu en haut d'une tourelle d'acier. Une bombe.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Compte à rebours et retour sur l'histoire ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de l'Amérique, d'une autre histoire, de performance, de minimalisme et même peut-être de pélican blanc avec Oliver Stone qui signe une autre histoire de l'Amérique, une série documentaire de 10 épisodes qui revient sur 60 ans de l'histoire jamais racontée des États-Unis en confrontant images d'archives et films de fiction. Benoît Lagan.
Et dans cette série épatante, Oliver Stone, le cinéaste de Platoon et JFK, relate comment son pays construit sur la peur de l'ennemi fera par exemple de son anticommunisme un outil d'impérialisme économique et militaire.
À ses côtés, Kate Moran au centre d'Einstein on the Beach, la reprise du spectacle mythique de Bob Wilson, un opéra plastique sans intrigue ni personnage pour une révolution dans l'histoire de l'art contemporain, Lucille Como.
Portrait d'une artiste qui aime commencer par la danse classique et qui explore toutes les formes de la performance, du théâtre au cinéma indépendant.
Et ce soir, la session musicale, Lucille, ce sera...
Ce sera Kate Moran aussi qui interprétera une chanson de Lou Reed accompagnée par David Kroll à la guitare.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Xavier Martinet qui présente aujourd'hui un dossier sur la CIA. Et puis on retrouvera Benoît Lagan pour les brèves. Bonsoir Xavier Martinet.
Bonsoir Laurent.
Le Washington Post, influencé par la CIA, c'est le risque, avancent les organisateurs d'une pétition de plus de 30 000 signatures aux États-Unis. Au cœur de l'affaire, eh bien, un contrat entre Amazon et la CIA. Or, le PDG de l'entreprise de vente en ligne, Jeff Bezos, avait racheté le Washington Post il y a quelques mois seulement.
Oui, et justement, à l'époque du rachat, à l'été dernier, Jeff Bezos n'avait pas dit pourquoi il tenait à racheter le grand journal politique qu'est le Washington Post. Or, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, 250 millions de dollars pour le simple rachat du Washington Post et 600 millions pour ce fameux et mystérieux contrat entre Amazon et la CIA signé à l'automne dernier. De l'argent et donc de l'influence pour les pétitionnaires, ce triple lien de Washington Post, Amazon, CIA via Jeff Bezos constitue donc une source de conflit d'intérêts. Il demande donc au Washington Post de clarifier la situation en publiant tout simplement un avertissement, une sorte d'avertissement au début de chaque article traitant de la CIA. De son côté, le rédacteur en chef du Washington Post, Martin Barron, affirme que l'éthique du journal suffira à se prémunir contre une possible tutelle. Mais c'est pourtant la procédure normale aux États-Unis que d'avertir les lecteurs sur ce genre de lien, répond le coordinateur de la campagne, c'est l'essayiste et activiste David Swenson.
Bien sûr qu'on n'est pas en train de se tromper de cible. Il s'agit probablement du journal le plus influent de Washington, où se trouve le gouvernement le plus influent du monde. Alors le directeur de la rédaction du Washington Post a beau affirmer que Jeff Bezos n'influencera pas la ligne éditoriale ou les articles, mais on sait que ça ne se passe pas comme ça dans ce pays. Sans parler de cette longue histoire d'infiltration par la CIA, de certaines rédactions de journalistes, parfois avec la complicité des propriétaires et de la hiérarchie. D'ailleurs, juste cette semaine, une nouvelle histoire qui remonte aux années 70 vient de sortir. Des gens avaient envoyé à la presse des documents sur l'espionnage et le noyautage de groupes de militants pacifistes par le FBI. Eh bien, figurez-vous que certains journaux, dont le New York Times et le Washington Post, ont refusé de relayer l'information. À la place, ils sont allés voir le FBI et ils ont étouffé l'affaire.
Il faut dire que le contexte actuel aux États-Unis est plutôt pesant entre les affaires d'écoute et la crise de la presse.
Oui, les affaires sont bien sûr celles qui sont liées aux révélations d'Edward Snowden sur les écoutes de la NSA. Cette fois, à la fin de l'année dernière, d'ailleurs, on apprenait que le New York Times, encore lui, avait couvert pendant un an et demi les écoutes de la NSA liées à Israël. Il s'était justifié un an et demi plus tard, donc il avait dit que c'était pour ne pas influencer les élections présidentielles aux États-Unis. Alors, dans ces affaires, d'ailleurs, les questions de collusion entre ces agences et les grands groupes de données numériques que sont Google et Amazon sont souvent posés. Et puis il y a la crise de la presse. Là encore, on retrouve Google et Amazon, justement, qui sont les nouveaux acteurs d'une presse en faillite presque totale. C'est même la fin d'un modèle qu'on pourrait dire de capitalisme familial et indépendant. En tout cas, c'est ce que soutenait au téléphone tout à l'heure le professeur et spécialiste des médias au Columbia College de Chicago. Il s'appelle Philippe Ravanas.
Les grands journaux américains, outre le New York Times, le Wall Street Journal, le Washington Post, le Chicago Tribune, le LA Times, le Boston Globe, ainsi de suite, sont tous dans des situations financières catastrophiques et assez souvent en dépôt de bilan. Et le Washington Post est d'autant plus emblématique qu'il illustre, depuis l'affaire du Watergate, l'indépendance de la presse. Et le rôle de la famille Graham dans ce cas-là, le courage de ses propriétaires avait été essentiel. Donc on voit bien tout l'enjeu. Cet effondrement-là pose un problème pour toutes les industries du spectacle, de l'entertainment et des médias aux États-Unis. Elle pose un énorme problème à la presse. C'est pas les seuls qui ont pas forcément eu la virulence qu'ils auraient dû avoir au cours des 10 dernières années, notamment après les attentats du 11 septembre, sur les agissements du gouvernement.
Et j'ajoute que, jointe aujourd'hui également par email, la rédaction du Washington Post a décliné toute interview et toute explication supplémentaire.
Peut-être une réaction de votre part, Oliver Stone, par rapport à ce que l'on vient d'entendre ?
Eh bien, ça me fâche beaucoup, mais c'est bien connu depuis des années. Dans les 1950, the CIA made a major effort to,
fait des efforts immenses.
Ally with the media, American media.
Pour s'allier aux médias américains.
And, they were successful.
Ils ont réussi.
They were highly connected with the New York Times,
ils étaient très, très liés au New York Times, au Washington Post,
CBS News,
à la chaîne CBS News, et tous les... En fait, toutes les informations étaient biaisées du point de vue du gouvernement, étaient en faveur du gouvernement depuis cette époque-là. C'est une très importante information, mais c'est un peu, encore un peu plus de ce qu'on essaie déjà. Jeff Bezos, vous savez, Amazon, c'est un méga store, c'est un immense hypermarché. En fait. Il va tout mettre sous le même toit, autant que faire se peut. Et je crois que son intérêt premier, c'est de faire de l'argent. Et tout simplement, eh bien, les journaux, ça sera un autre de ces magasins. Et de ce point de vue, je voudrais simplement souligner que la CIA, après que mon film ait été diffusé sur JFK, ils savaient qu'ils avaient fait une erreur. Et la réaction des médias était horrible après mon film. Mais ils savaient qu'ils avaient perdu la partie à Hollywood après ça. Dans les années 50, ils avaient fait faire des films anticommunistes. Hoover a fait faire des séries pour la télévision. Il y a eu beaucoup de séries de propagande. Mais dans les années 80-90, ils avaient perdu le contact, la CIA. Après mon film, ils ont ouvert un bureau à Hollywood. Et la CIA a fait la promotion de ses propres intérêts. Ils ont soutenu 5 ou 6 séries télévisées, y compris Homeland, y compris 24. C'est des grosses, très grandes séries et des films. Ils ont subventionné des films. Et des films comme Summer Ball Fears,
Pearl Harbor,
Pearl Harbor,
Black Hawk Down, they represent the Pentagon's point of view.
Tout ça, ça représentait le point de vue du Pentagone. Le Pentagone avait aussi un bureau pour promouvoir son point de vue à Hollywood. Et ils ont réussi. Mais maintenant, le climat à Hollywood... On ne peut pas faire un film anti-américain ou un film qui soit critique du gouvernement américain à Hollywood. Ce n'est pas possible. Et en fait, la tendance va à droite.
C'est ce qu'on verra tout à l'heure, parce que vous avez quand même réussi à faire une autre histoire de l'Amérique non officielle à la télévision, en effet pas au cinéma, mais à la télévision. On y revient dans un instant. Tout de suite, les brèves, avec vous Benoît Lagan.
Et pour ouvrir, Amazon encore, mais du côté du Sénat en France, où les parlementaires ont voté à l'unanimité la nuit dernière en première lecture la proposition de loi destinée à interdire aux opérateurs en ligne, tels que Amazon, de cumuler la gratuité des frais de port du livre et avec la remise autorisée de 5%, déjà adoptée par l'Assemblée nationale le 3 octobre dernier. La ministre de la Culture s'est donc félicitée de l'adoption de cette loi qui s'inscrit dans le plan en faveur de la librairie indépendante.
Pierre Lescure se prépare pour Cannes.
Oui, l'ancien PDG de Canal+ va être élu mardi prochain président du Festival de Cannes en lieu et place de Gilles Jacob. C'est ce qu'a révélé Jérôme Clément, ex-patron d'Arte, également postulant à la présidence du festival. Condition préalable à la nomination, l'État va proposer le nom de Pierre Lescure comme nouveau membre du conseil d'administration du festival. Or, Jérôme Clément explique avoir été informé avant Noël que ce serait Pierre Lescure. Contacté par nos confrères de l'AFP, Pierre Lescure s'est refusé pour l'instant à tout commentaire.
Et pendant ce temps-là, à Cuba,
bien plusieurs médias cubains, photos à l'appui, ont annoncé aujourd'hui que Fidel Castro, retiré du pouvoir depuis 2006, aurait fait une apparition publique hier soir à l'occasion de l'inauguration d'une galerie de peinture. Le site officiel Cuba Debate a publié une photo de Fidel Castro de dos discutant avec le peintre Xo dans sa galerie, le laboratoire d'art Romerillo.
Encore une réaction, Oliver Stone, sur cette réapparition de Fidel Castro ?
Alors, comme vous savez, j'ai fait 3 films
avec Fidel. C'est pour ça.
C'est un homme que j'admire beaucoup. C'est un homme qui est immortel. Il est immortel, il a duré pendant...
Immortel.
Immortal.
10 presidents, he survived.
Il a survécu à 10 présidents américains.
All of whom have been hostile to him.
Et several tous ces présidents lui ont été hostiles. Certains ont tenté même de le tuer.
He's Superman, as close as a modern figure is.
Vraiment, il est le plus près possible de Superman.
You recognize that in the United States, he is still
reviled. On peut le reconnaître en Europe, mais aux États-Unis, il est toujours craint et haï.
I got into a lot of trouble.
Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes à le défendre.
La petite histoire du soir, donc, tout de suite.
Eh bien, ce soir, Laurent, une toute petite histoire mégalomaniaque ou comment la photographie d'une carte de visite chinoise digne du livre des records tourne sur le web pour le plus grand plaisir des internautes. Je vous raconte. Tout commence quand nous apprenons, il y a quelques jours, dans une tribune publiée dans le quotidien chinois Global Times, que Chen Guangbiao, un milliardaire connu pour sa philanthropie, affirme vouloir racheter le quotidien américain New York Times en promettant, je le cite, de « mettre en place des réformes nécessaires dont l'objectif final est de renforcer l'authenticité et l'objectivité des articles publiés par le journal en renforçant sa crédibilité et son influence ». Et voilà donc que tout le monde s'amuse aujourd'hui du philanthrope depuis que le site internet américain Business Insider s'est procuré la carte de visite du milliardaire.
Et qu'est-ce qu'on peut lire donc sur cette carte de visite ?
Eh bien, tout simplement que le Chinois aux 750 millions de dollars de fortune aurait autant de qualités. On découvre en effet via le Huffington Post ou Atlantico.fr que le philanthrope est aussi mégalo ou rigolo. Chen Guangbiao se présente en effet sur sa carte de visite comme si personne la plus influente de Chine, plus important philanthrope de Chine, leader moral de Chine, mais aussi héros du sauvetage des tremblements de terre, modèle social le plus aimé, le plus connu de Chine, membre du top 10 des volontaires les plus appréciés de Chine, philanthrope le plus charismatique de Chine, ça ne s'arrête pas là, hein. Faible pollueur en CO2, top défenseur de l'environnement et enfin, principal expert de Chine en préservation de l'environnement dans les démolitions. Alors moralité, il pourra bientôt rajouter inventeur de la carte de visite la plus vue dans le monde.
Voilà le résultat de notre carte de visite, il ne nous reste plus qu'à imprimer. Pour cela, on va cliquer sur le bouton « Imprimer ». Suite à cela, on peut fermer l'aperçu avant impression en cliquant sur la croix rouge. Merci de m'avoir suivi, j'espère que ce tutoriel vous a plu et à bientôt.
Encore un commentaire pour ce personnage digne de film, pas Hollywood mais presque.
En Chine,
ouais.
Je l'adore.
J'adore
les Chinois, ils sont excentriques, mais it shows us that
ça nous démontre que les gens riches à travers le monde achètent des médias. Déjà, le New York Times, le Washington Post sont propriétés de gens qui ont énormément déjà de télécommunications, de biens de télécommunications au Mexique, par exemple. J'espère qu'on aura un jour des millionnaires de gauche qui pourront acheter aussi des médias.
Ça arrive.
Aux États-Unis, quand après le Vietnam, il y a le Watergate, tout le monde a pensé que c'était une période de réforme libérale très importante. On a essayé. Mais on a découvert que les néoconservateurs achetaient les médias depuis les années 1970. La Fondation Skate, les frères Scope, le secrétaire du Trésor, étaient très investis dans les médias et dans les années 80, quand Reagan est arrivé au pouvoir, les médias étaient de plus en plus à droite et sont restés comme ça. Le Washington Post est un exemple. C'est la page éditoriale pro-Irak du Washington Post en est un exemple flagrant. Les États-Unis ont des médias qui sont biaisés à droite depuis les années 70.
Kate Moran, est-ce qu'il y a un commentaire à apporter ?
Non. Je crois que c'était très très bien dit là.
Parfait. Alors on commence tout de suite.
Très d'accord.
19-20, le rendez-vous. C'est sur France Culture.
Bonjour, je m'appelle Oliver Stone. J'ai grandi à New York et j'ai toujours pensé que l'éducation que j'avais reçue était correcte. J'ai ensuite étudié l'histoire de manière plus approfondie, particulièrement l'histoire des États-Unis. Elle semblait limpide. Nous étions au centre du monde. Nous suivions notre destinée manifeste. Nous étions les gentils. Bien sûr, nous vivons tous avec des œillères. Mais j'aimerais que mes enfants aient une vision plus large, qui ne soit pas soumise à ce que j'appellerais la tyrannie de l'instant. Nous allons vous présenter, entre autres choses, des héros oubliés, des hommes et des femmes qui ont souffert pour défendre leurs convictions et qui, par leur refus de se conformer, ont disparu, sans entrer dans l'histoire. Nous allons aussi briser certains mythes. Des erreurs graves ont été commises. Mais je suis convaincu que nous sommes toujours en mesure de les corriger.
Plateau, tout est non dit avec vous, Oliver Stone, cinéaste et producteur américain depuis le début des années 70. On va citer rapidement Platoon, Wall Street, JFK ou encore Tueur Né. Vous êtes actuellement de passage en France à l'occasion de la diffusion sur Panet Plus de votre grande série documentaire Une autre histoire de l'Amérique, dont on vient d'entendre le début pour ouvrir le plateau. C'est une série de 10 épisodes dans laquelle vous revenez sur l'histoire de la politique étrangère des États-Unis de la Seconde Guerre mondiale à nos jours. À ce sujet, pour quelles raisons commencer sur la Seconde Guerre mondiale et ne pas avoir repris le cours de l'histoire américaine, mais plus en amont.
Aussi, je voudrais ajouter qu'il y a
un livre
des présidents qui sort aussi en même temps.
L'édition Saint-Simon.
350 pages Saint-Simon. Très beau. C'est très bien traduit par John Rosenthal. Et j'aime bien l'acteur qui a joué ma voix.
Philippe Torreton.
C'est pas ma voix, mais au moins en français, c'est beau.
Okay. Alors, pourquoi la Seconde Guerre mondiale n'est pas plus en amont? Mais je sais que vous n'avez pas oublié la question.
Yes, we did a 12-hour... In America, it was released as a 12-hour series.
C'est une série avec 12 épisodes et non pas 10 comme en France, par DVD. Mais c'est sur Showtime, c'est sur une chaîne de câble. Et on recherchait le public. Si on avait commencé avec la Première Guerre mondiale et la Révolution russe et les luttes des années 20 et des années 30, vous savez, ça aurait été des personnages tellement différents. On pensait qu'on perdrait la jeune génération de téléspectateurs. Les Américains peuvent se relier plus facilement à la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est là, à ce moment-là de l'histoire, que les États-Unis sont apparus comme un acteur international. Et c'est devenu un État de sécurité, un État sécuritaire. Et donc, on voulait vraiment un début extrêmement fort. Il y a tellement de mythes autour de la Seconde Guerre mondiale que nous avons pensé que ça aurait un meilleur impact. Mais j'espère qu'en France ou grâce à Amazon, grâce à M. Bezos, vous pourrez trouver les premiers épisodes.
C'est sur une chaîne du câble que vous avez diffusé ça aux États-Unis. Est-ce qu'il y a eu des réticences par ailleurs pour un projet qui montre une histoire non officielle?
On n'aurait jamais pu le faire autrement. On a eu 65% de financement privé, on a eu des avances sur recettes de Showtime et d'une société britannique pour les ventes à l'extérieur. Et c'était basé sur mon nom et ma réputation. Mais ça a été véritablement très pénible, ça a duré pendant 5 ans pour faire ce film. On a dépassé un petit peu le budget, on a dépassé le timing, mais on était très heureux de pouvoir le faire comme ça. Mais on n'aurait jamais pu le faire sur les réseaux hertziens. Impossible. Le système PBS, c'est-à-dire le système nationalisé, est biaisé politiquement. On peut faire, si vous voulez, des séries sur les guerres des États-Unis. Ils ont fait quelque chose sur ce sujet. Voilà, ils ont raconté que les Américains devaient lâcher les bombes sur le Japon parce que sans ça, le Japon résisterait et qu'on aurait perdu des vies humaines. Il n'y avait rien dans ces films sur l'alliance avec l'Union soviétique. Il n'y avait rien sur les buts de l'Empire britannique et ce que voulait Churchill. Rien n'était dit dans ces films-là.
Et tout est dit aujourd'hui. Benoît Lagan.
Alors pour cette série, vous avez collaboré avec l'historien Peter Kuznick, co-auteur aussi du livre que vous citiez tout à l'heure, qui est le directeur de l'Institut d'études nucléaires à l'Université américaine à Washington, auteur de nombreux livres sur la guerre froide et l'histoire du nucléaire. Comment son travail est-il perçu aux États-Unis et dans la communauté intellectuelle américaine?
Nous avons construit cette série sur la base des historiens, entre guillemets, révisionnistes, qui ont revu l'histoire des guerres et l'histoire des États-Unis, D.F. Fleming, Walter Lefebvre, tous ces auteurs, tous ces historiens, Appleman, William Appleman, ce sont des historiens extrêmement importants. Ils se battaient contre les historiens officiels de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une bataille, c'est une lutte qui va d'avant en arrière. Mais on n'a pas créé cette histoire. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons réuni sous le même toit toute l'information existante qui était disponible au niveau universitaire, aux étudiants des facultés, mais qui n'était pas disponible aux lycéens, par exemple. Et nous avons essayé d'arriver, de toucher les lycéens. Nous avons fait le livre original que nous avons écrit avec Kuznick fait 800 pages. On va donner une édition plus restreinte pour des élèves de 12 à 16 ans. On fait une BD, un graphic novel, comme on dit aujourd'hui. On va essayer d'atteindre les gens des lycées, des facultés. On veut toucher les nouvelles générations. Nous pensons et nous croyons que l'historien Howard Zinn, historien américain, a commencé à toucher les jeunes générations. Et nous, nous voulons faire exactement la même chose.
Alors, parmi les moments occultés dans les livres d'histoire officiels, vous placez au centre de la première partie de votre documentaire, de vos documentaires, le vice-président de Roosevelt, Henry Wallace, de 1941 à 1945, qui était un démocrate progressif. Le tournant de l'histoire, c'est pour vous ce qui se passe lors de la convention démocrate de 1944. À Chicago, montage.
Un sondage au premier jour de la convention donne Wallace favori avec 65% des votes, contre Burns avec 3%. Truman arrive 8e avec seulement 2%.
The future must bring equal wages for equal work, regardless of sex or race.
Le discours de Wallace est régulièrement interrompu par un tonnerre d'applaudissements. Tout le monde crie « Nous voulons Wallace !» Si le vote a lieu ce soir, Wallace remportera haut la main la nomination. Il se dirige sans attendre vers le microphone pour lancer le vote. Mais les chefs du parti, à bout de nerfs et vociférants, exigent que le président des sessions, Samuel Jackson, ajourne le vote, prétextant un risque d'incendie. Truman remporte la nomination. Tout est fini. Pepper écrira « À mon avis, pour le meilleur ou pour le pire, l'histoire a été mise sans dessous dessous ce soir-là, à Chicago. »
Oliver Stone, c'est intéressant parce que dans les livres d'histoire, cette convention démocrate de 1944 n'est absolument pas évoquée. Comment expliquez-vous que la figure d'Henry Wallace ait été tant occultée par les historiens officiels ?
C'est une histoire cachée et vous mettez l'accent sur quelque chose de très important. En juin 1944, c'était le jour J. Et ça a été vendu au public américain comme le jour J était le sommet de la Seconde Guerre mondiale. Et les historiens sérieux savent que la victoire soviétique à Stalingrad et à Kursk, c'était les deux batailles les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale. Et qu'en 1943, les Russes avançaient à travers l'Europe orientale vers Berlin. Et nous avons ouvert le second front, jour J, 2 années après l'avoir promis. Donc c'est un scandale. Et l'histoire américaine nous raconte que ce sont les États-Unis qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Un mois après le jour J, le changement le plus important, c'est que Roosevelt est beaucoup plus vieux. Il ne va pas réussir à se faire réélire pour un quatrième mandat, et c'est extrêmement important. Le fait que Wallace ait été écarté par les patrons démocrates est un scandale. On était vraiment à quelques secondes du fait que Wallace soit élu ce soir-là. Ils ont fermé le hall, ils ont fait semblant d'avoir un problème de sécurité, et au cours des 24 heures suivantes, ils ont en fait acheté la nomination de Truman. Et c'était un scandale. Mais tout le monde s'en fichait parce que c'était fait, c'est fini. Wallace était bon perdant, il a rejoint le cabinet en tant que secrétaire, c'est-à-dire ministre du Commerce. Il a essayé de lutter contre la guerre froide pour les années, disons pendant un an et demi. Il a été efficace parce que beaucoup de ses idées ont été acceptées par Truman sur le travail, sur les droits civiques, etc. La grande histoire de Wallace, c'est un moment très émouvant, mais la grande histoire, c'est que Hiroshima, Nagasaki, c'est ça. Il n'y a aucune façon, si Roosevelt avait vécu encore trois mois, ou Wallace, s'il avait été élu, aucun d'entre eux n'aurait lâché les bombes sur le Japon. La vision de Roosevelt, c'était une alliance principale entre les USA et l'Union soviétique. Et de ce point de vue, il avait promis à Staline, Roosevelt avait promis à Staline des réparations pour l'aider après la guerre, parce qu'ils étaient en faillite. Les Russes ont perdu 27 millions de soldats. Les Américains ont perdu 300 000 personnes. C'est tout pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, c'est tout entre guillemets.
Kate Moran, j'imagine que ce n'est pas du tout ce que l'on vous a enseigné dans les lycées aux États-Unis.
Non, c'est...
Tout le contraire.
Oui, tout le contraire. Moi, j'étais à l'école publique dans une petite ville à Massachusetts. Et c'est vrai que c'est très important d'être engagé, surtout maintenant avec le média aux États-Unis qui est très, très manipulatif dans leur façon de raconter les choses. C'est quelque chose qui est assez grave, surtout... Quand moi, j'ai grandi dans une petite ville, et c'est ça le grand public des États-Unis. Et c'est justement là où on perd des gens, parce qu'ils pensent, comme même mon père, parce que sur la télévision, c'est la vérité. Je dis, mais si tu ne regardes pas Fox News, c'est des choses comme ça. Alors c'est sûr et certain que c'est très important d'être engagé avec les jeunes, les gens, pas juste les gens à l'université, mais les gens même avant ça. C'est de raconter les d'autres... façon l'histoire des États-Unis.
Benoît Lagan.
Alors, ce qui est intéressant, Oliver Stone, dans votre série documentaire, c'est qu'un de vos principes, c'est d'illustrer aussi, donc par les archives, mais par la fiction. Et pour Henry Wallace, vous glissez plusieurs extraits, on l'entendait dans le montage tout à l'heure, du film Monsieur Smith au Sénat de Frank Capra. Que doit Wallace à Capra, et inversement, parce que les films de Capra sont avant l'arrivée de Wallace au pouvoir. C'est
Henry Wallace est devenu quelqu'un d'important bien avant, comme secrétaire à l'agriculture, ministre de l'agriculture. C'était un des personnages principaux du New Deal. C'était très important. Mais Wallace était quelqu'un de sincère. C'était un genre boy scout. Il était trop naïf pour Washington. C'était un homme curieux, il était scientifique, et c'était un capitaliste qui avait beaucoup de réussite parce qu'il a réussi à mettre au point un nouveau gène de maïs mutant. Il a gagné beaucoup d'argent avec ça. Et Wallace a dit, on a besoin de nourriture. La nourriture était très importante dans les années 30. Il n'y avait pas assez de nourriture aux États-Unis. Et il a dit, la rareté de la nourriture va mener à la guerre. Donc c'était un homme qui pensait vraiment en termes très humanistes.
Et donc, c'était l'influence de Capra ?
Non, la raison pour laquelle on a mis des films de fiction dans la documentaire, c'est qu'on avait, pour chaque épisode, 53 minutes et quelques secondes pour couvrir une dizaine d'années. Et bon, on était pressé. Il fallait raconter l'histoire. Il fallait la raconter clairement. Ça passe à travers les choses. Ça fait ça raccourcit de mettre des extraits de films. Et l'esprit de Frank Capra est véritablement face à l'esprit de Wallace et ça correspond bien. Donc on en apprend beaucoup plus rapidement avec des extraits de films. On utilise beaucoup d'extraits de films documentaires et donc ça ralentit un petit peu. Et moi, en tant que réalisateur de films, je mettrais un petit peu d'extraits de films de fiction pour alterner un petit peu et donner un peu plus de rythme. Et j'utilise deux compositeurs de musique de films. Adam West.
Adam Peters. Yes. Adam Peters and Craig Armstrong.
Et Craig Armstrong, les deux compositeurs.
Puisqu'on est justement sur le registre du cinéma politique et historique, vous dites que c'est le film JFK que vous aviez réalisé en 91 qui a été vraiment un tournant. Qu'est-ce qui a changé à ce moment-là dans votre façon de travailler la matière historique, Oliver Stone ?
Well, for me, it was I was naïve,
vous savez, moi j'étais naïf autant que Wallace a pu l'être. Et je m'étais pas rendu compte que j'avais vraiment touché un point extrêmement sensible de l'histoire américaine. Cet assassinat de Kennedy, vraiment, c'est le point culminant de cette histoire. C'est vraiment l'histoire la plus sale. Il faut s'en rendre compte que dès le premier jour, ce vendredi, Ce vendredi soir, la presse Walter Cronkite a dit « un assassin, trois coups de feu ». Ils avaient tout le profil de Lee Harvey Oswald à travers le monde entier. C'était vraiment une manipulation qui avait été préparée depuis des jours. C'était très très important. Maintenant, nous le savons, nous l'avons tous appris, cette première impression est la plus importante. Et cette première impression a été défendue jusqu'à la mort par le New York Times, le Washington Post. Tous les méchants dans cette guerre médiatique ont défendu cette vision sans aucune preuve. Le fusil, les balles, tout ça est contradictoire. Et pourtant, ces gens disent que ceux qui soulèvent des questions, des critiques, disent « Ah, mais voilà, face à nous, il y a des conspirateurs, la grande conspiration ». Eh bien, ce sont eux les gens de la grande conspiration. Et moi, je me suis mis dans un nid de vipères. Nous avons été attaqués avant que le film soit porté à l'écran. J'ai été attaqué depuis. Moi, je ne suis pas le genre de réalisateur qui dit « Non, non, c'est juste un film ». Non, j'ai vraiment cru à ce que je faisais. J'ai été marginalisé, j'ai été ridiculisé. Et ma carrière n'a jamais été la même depuis. Et chaque film que j'ai fait depuis 1991, a été jugé à l'autre aune, non pas en tant que film, non pas pour le plaisir qu'il donnait aux spectateurs, ça a été jugé dans cet angle bizarre parce que j'avais fait ce film bizarre où j'avais fabriqué des preuves.
Et alors, quel a été le regard, par exemple, sur cette série documentaire donc, qui propose une histoire alternative, une histoire non officielle, non racontée de l'Amérique ? Oliver Stone.
Pour moi, c'était très difficile. Les historiens progressistes ont été très courageux. On a eu de très, très bonnes critiques de leur part, de beaucoup de gens qui sont vraiment très au fait de ce sujet et d'universitaires très sérieux. Nous avons été attaqués par la droite et les propagandistes soviétiques. Mais bien sûr, la série revient jusqu'à 1930, mais ce qui était le plus difficile, c'est qu'on a été ignoré ou attaqué par les libéraux, ce que j'appelle les libéraux de la guerre froide. C'est l'école d'Arthur Schlesinger. Ce sont des gens qui sont très respectés. Ce sont eux qui ont les postes universitaires. Mais ils ne vont pas abandonner cette idée que l'Union soviétique était l'agresseur pendant la guerre froide. On les a combattus, mais on a été ignorés dans la presse générale. Mais on a, en fait, ça a bien marché quand même. Si on avait été sur la télé publique, on aurait eu 40 millions de téléspectateurs. Mais sur Showtime, on a eu 1 million de téléspectateurs par semaine, quand même. Et finalement, on a eu autant de téléspectateurs au début de la diffusion de la série qu'à la fin. Et maintenant, on revient. Donc, c'est un succès. Et c'est une bataille en cours.
Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
This is a race, so this one will have 8 in type into a pink brick. So this could be very magic. So this could be in like scene, women comes out to grab her. So this, what? She grabbed her. So if you lie in the grass. So this could be where if the earth moves or not. So here we go.
Plateau performance avec vous, Kate Moran, que l'on vient d'entendre dans cet extrait de Einstein on the Beach. Kate Moran, actrice, comédienne, danseuse, qu'on a pu voir récemment dans Les Rencontres d'après-minuit de Yann Gonzalez, qu'on verra le 5 février prochain dans le film de Peter Greenaway, Goltius et la compagnie du Pélican Blanc. Et vous êtes aujourd'hui au centre de la reprise du spectacle mythique de Bob Wilson, Einstein on the Beach. C'est au Théâtre du Châtelet à Paris, un opéra performance créé au Festival d'Avignon en 1976 sur une musique répétitive de Philip Glass. La chorégraphie, c'était Andy de Groot, dansé par Lucinda Childs. Le projet de Bob Wilson, c'était de créer à l'époque un spectacle plastique, sans intrigue, un long poème avec orchestre et synthétiseur autour de la grande figure d'Einstein, une sorte de vaste cycle de plus de 4h30 qui commence avec un train et qui s'achève avec un vaisseau spatial. Qu'est-ce que représentait pour vous, qui êtes d'une autre génération, cette pièce, vous qui êtes plus ou moins associé à tout ce que le théâtre expérimental new-yorkais peut représenter?
Pour moi, cette pièce, c'était quelque chose que j'ai étudié à l'université. C'était quelque chose de très iconique parce que c'était quelque chose qui avait représenté un changement de pensée de comment on regarde un spectacle. Pour moi, la façon que c'était créé, l'idée que ça parle juste du, pour moi en tout cas, le temps et l'espace, et qu'il y avait quelque chose de non narratif, une vraie liberté qui était donnée au spectateur et pas juste l'idée qu'on montre tout pour que c'est bien défini, ça c'est l'histoire, à ce moment-là on veut que vous êtes triste, à ce moment-là vous êtes heureuse, et que aussi la façon de laisser les gens décider s'ils veulent rester 4h30, s'ils veulent partir, c'est pas un entracte direct, c'est vraiment... Parce qu'au théâtre, parfois, c'est quelque chose que... J'aime pas cette idée que c'est une église ou une prison. Justement, c'est le rêve, c'est l'imaginaire, et d'avoir les gens qui sont coincés dans une chaise et on sent qu'ils sont malheureux d'être là, ils n'aiment pas. Alors, vas-y, pars, c'est pas grave. C'est pas pour tout le monde, c'est pas grave. Mais aussi, c'est de je sais pas, prendre un verre, fumer une clope et revenir. Ça, c'est aussi, je trouve ça un mouvement qui a une élégance et une générosité de gestes qui m'avait beaucoup fasciné aussi.
Vous connaissez cette pièce iconique, Oliver Stone, Einstein on the Beach, de Bob Wilson?
Il y a des films de 4 heures aussi, c'est difficile, mais je n'ai pas vu.
Vous ne connaissez pas non plus ce que ça a pu représenter? Comment vous êtes préparé pour l'audition? Qu'est-ce que Bob Wilson vous demande d'ailleurs pour l'audition?
Déjà, c'était pendant 2 jours. Et au début, il avait demandé, on était par 10 en face de lui, et il avait demandé qu'on marche 3 mètres en 3 minutes, et en train de regarder l'horizon, mais avec les yeux aussi derrière nous. Mais pour moi, le chemin de mon travail, pour moi, c'était vraiment 3 minutes, 3 mètres, c'est hyper vite pour moi. Et après, on avait chacun passé... avec le texte qui était écrit par Christopher Knowles. Et pas tout le texte dans la pièce, mais en tout cas le texte que moi je dis, sauf un passage de Lucinda elle-même.
Lucinda Childs.
Et Christopher, c'est toujours, il est un autiste. À l'époque, il avait 17 ans. Et alors pour moi, il y a un sens dans cette poème, mais c'est quelque chose qui est juste incarné dans moi. Il y avait quelque chose dans la façon qu'il avait écrit les mots choisis, le rythme que c'est écrit sur le papier. Mais ce n'est pas quelque chose qui a une histoire, un sens. Alors, c'est aussi, je crois, probable l'oreille, dans son oreille, le timbre de voix, la façon d'être engagé par un texte qui n'est pas forcément un texte psychologique, si on peut dire.
Lucille Comeau.
Alors justement, c'est un opéra où il n'y a pas de personnage classique au sens du terme. C'est d'ailleurs pour ça que ça a fait rupture dans l'histoire de l'art. Comment vous définiriez-vous la place, du coup, le rôle, je ne sais pas si on peut dire rôle, que vous y tenez?
Pour moi, j'ai l'impression que, en fait, c'est pas quelque chose de définir. C'est moi, je suis une partie de toute une machine, toute une pièce. Alors, c'est presque, c'est pas que les gens sont traités comme les objets, mais c'est comme il y a une égalité sur le plateau de la lumière, le décor, les chanteurs, les musiciens, mon rôle d'actrice, tout est égal. Alors il n'y a pas quelque chose qui sort de plus important, et comme ça, je crois que j'aime rester dans cette idée qu'on est tous partie d'un train qui part, et pas forcément quelque chose qui est spécifique, que je peux dire, mais c'est ça mon rôle.
Alors pour comprendre le climat de la pièce, eh bien notre réalisateur Thomas Beau a réalisé un montage de quelques moments de la pièce. Ça ne dure pas 4 heures.
Frankie, it could be very fresh.
Eight.
It could be, and
Frankie,
Frankie.
Six.
It could be
five.
Very fresh.
Five.
And clean.
Six, one, two, three,
it could four, be those.
Twelve. One.
So, if you catch
one,
the Bank of World Traveler from.
No!
feel the earth move. I feel the tumbling down, the tumbling down. There was a judge who like puts in a court, and the judge was like, in what able jail would it could be? A spanking or a whack or a smack or a swat or a hit? This could be where of judges and courts and jails, and who was it? This will be doing the facts of David Cassidy, of or in this case, of feelings that could make you happy, that could make you sad, that could make you mad, that could make you jealous. So, do you know what jail is? A judge in a court could do this. Could be like in those green Christmas trees. So Santa Claus has about red, and now the Einstein Trail is like the Einstein on the beach.
On vous entend, Kate Moran, dans ces extraits. Vous reprenez le rôle ou la partition que dansait Lucinda Childs à l'époque, qui depuis est devenue le chef de file de la danse minimaliste américaine. Vous avez, j'imagine, travaillé avec elle. Quelles sont les difficultés d'une telle composition qui joue sur la répétition incessante pendant 4h30?
Déjà, moi, j'ai travaillé plutôt qu'avec Bob. Lucinda, elle était très gracieuse. Elle m'avait dit que pour elle, c'était la partie danse qui appartient maintenant dans cette partie-là. Mais si j'avais les questions, de n'hésitez pas de parler avec elle.
Vous n'en avez pas eu.
Mais c'était plutôt... Elle n'avait même pas assisté aux répétitions parce qu'elle n'avait pas envie que j'essaie de...
De la copier.
De le copier ou d'être gênée par sa présence. Et pour moi, comme c'est quelque chose qui est... tellement important pour moi, c'était vraiment un rêve de faire cette pièce. J'avais fait un énorme devoir avant même le premier jour de répétition. J'avais vu le plus de vidéos, les archives que je peux. J'avais écouté la partition. Tous les gens autour de moi étaient fous à la fin d'écouter ça sans cesse avec moi. qui parle comme ça avec le texte. Mais c'est justement de faire tout cet devoir pour arriver avec une connaissance et un respect pour la pièce, mais après aussi de le prendre en main moi-même et de vraiment avoir un dialogue avec.
Et quelle est la plus grande difficulté dans ce travail, puisqu'il est question de 4h30, des tempos minimalistes, sur une musique répétitive?
Je crois que c'est même pas le mot de difficulté. C'était un énorme travail de faire, mais c'était un travail avec un bonheur et un plaisir. Alors je peux pas me plaindre de dire oui, c'est difficile. Oui, bah, parfois c'est difficile de m'asseoir pendant 45 minutes dans une chaise avec les jambes qui pendent en train de regarder l'horizon. Les choses physiques qui peuvent être plus dures un jour qu'un autre, mais dans l'ensemble, je peux pas dire que c'est un travail difficile. C'est justement un travail ravissant.
Oliver Stone, vous n'avez aucun rapport avec toute la scène, on va dire, expérimentale américaine, c'est-à-dire des gens comme Bob Wilson, Laurie Anderson ou des gens comme ça, Philip Glass. C'est une autre partie.
Je suis entièrement d'accord avec ce que Kate a dit. Il faut pouvoir quitter le théâtre quand on en a envie et revenir quand on veut.
Bon. C'est la réponse la plus formidable.
Mais comme vous le savez, moi je suis réalisateur de cinéma. Et ce qui me motive, c'est le récit.
Sur la narration.
Et un public dans un cinéma est très exigeant. Il est vraiment sans merci. Il faut que vous fassiez un film de 2h si vous pouvez. Si vous poussez jusqu'à 2h20, 2h10,
c'est dur. Il l'a dit en français.
Il l'a dit en français. Mais le public est très, très dur.
Kate Moran, vous avez été formée aux États-Unis, danse classique puis théâtre à l'Université des Arts de New York. Quel était l'apprentissage qu'on pratiquait à cette période-là?
L'apprentissage, c'est qu'est-ce que
c'est? Que vous avez eu, quel type de cours, quel type de professeur?
J'ai décidé d'aller à New York University parce que je n'avais pas envie de faire juste un conservatoire, de sortir comme acteur. J'avais l'impression que mes études, quand j'étais petite, n'étaient pas assez. J'avais envie de faire les choses académiques aussi. Alors, il y avait 2 jours de cours académiques et après 3 jours de conservatoire. Et ça, c'était dans un studio qui s'appelle The Experimental Theater Wing. Et j'ai choisi celui-là parce que comme j'avais une base de la danse depuis que j'étais très petite, c'était quelque chose qui a correspondu plus à moi, qui était de commencer avec les choses plus corporelles, que je ne suis pas très attirée par de commencer avec une base de psychologie ou des choses comme ça. C'est vraiment avec le mouvement de mon corps. Et cette studio-là, il avait vraiment une base de Grotowski, de chorégraphie, des choses comme ça.
Ce que l'on peut retrouver donc aujourd'hui dans la pièce de Bob Wilson. En février, vous serez à l'affiche, et ce n'est pas innocent, du nouveau film de Peter Greenaway, Goltzius ou la compagnie du Pélican, d'ailleurs pas blanc, c'est moi qui l'ai rajouté, une fable décadente où une troupe de théâtre à la Renaissance représente sur scène les grands tabous sexuels illustrés dans l'Ancien Testament. Là encore, vous vous exprimez avec votre corps, il n'est pas question véritablement de travail psychologique du personnage. En quoi consistait l'audition avec Peter Greenaway ?
Il n'y avait pas une audition.
Vous avez fait... Ah, il y a pas de...
Non, en fait, il m'avait appelé sur Skype. J'étais à New York et lui, il était à Amsterdam, je crois. Et le Skype n'avait pas marché. Alors, on s'est vus sur l'écran, mais on était au téléphone pour parler. L'écran technologique qui a super bien marché. Et en fait, il m'avait pensé pour un autre rôle qui était plus petit. Et finalement, au fur et à mesure de conversation, il m'avait demandé qu'est-ce que j'étais en train de faire et je l'avais dit que j'étais en train de justement répéter Einstein on the Beach. Et lui, il avait vu ça en 76 et il était bouleversé par la pièce. Alors c'était, en fait, quand on avait terminé la conversation, il avait appelé, je ne sais pas, mon agent ou son producteur, je ne sais pas. Il avait dit non, mais c'est elle qui doit jouer ce rôle parce que c'était un rôle où il est dedans, c'était cette voile et c'était un truc... il avait cherché justement ce personnage, il n'avait pas trouvé. Et quand il m'avait parlé, il avait vu qu'est-ce que j'avais fait. Il avait dit, voilà, c'est elle.
Comment il dirige les acteurs ? Est-ce qu'il les dirige ?
Qu'est-ce qu'il dirige les acteurs ? C'était plus, vraiment un peu plus comme un troupe du théâtre. C'était, les caméras étaient fixes et nous, on était sur une espèce de plateau qui tournait en rond. Et il avait juste laissé les scènes vraiment déroulées tout d'un coup. Et après, avec le truc qui tourne, évidemment, il avait chopé. Après, qu'est-ce qu'il avait parlé avec les acteurs ? Son travail avec les acteurs, c'était plus de répéter un petit peu au début du journée, surtout pour les scènes qui étaient un peu plus obligées d'être chorégraphées. Mais non, c'était plus... Pour lui, j'avais l'impression que c'était plus dans son idée de l'image en entier que les gens spécifiques.
On va vous écouter tout de suite, eh bien, chanter maintenant. Vous
avez fait... Ah oui, d'accord.
Ben oui, c'est la dernière
partie.
Ah oui,
j'avais oublié quand.
Eh oui, non, c'est maintenant, okay. Avec Morane.
Je vous laisse vous installer au micro, j'ai l'impression que vous n'avez pas du tout envie d'y aller.
La pauvre.
Avec votre guitariste Kate Moran, donc dans le studio 108 en direct, qui interprète donc I'll Be Your Mirror, une chanson de Lou Reed, décédée il y a quelques semaines. Il y a un lien entre Lou Reed et Bob Wilson, je pense que c'est d'ailleurs pour ça que Kate Moran l'a choisi. Lou Reed avait travaillé sur la mise en scène de la version de l'opéra Loulou par Bob Wilson, c'était en 2011 à l'occasion du festival d'automne. Kate Moran donc en direct dans le studio 108 et c'est David Kroll à la guitare, on vous écoute.
Ready? Let's go. I'll be your mirror, reflect what you are. In case you don't know, I'll be the wind, the rain and the sunset, the light in your door. To show that you're home. When you feel the night has seen your mind, that inside you're twisted and unkind. Let me stand to show that you are blind. Please put down your hands, 'cause I see you.
C'est C'était un effort, c'est moi qui vous l'ai demandé. Merci beaucoup.
C'était un petit peu avec le chat dans ma gorge. Je me suis... oh.
Comme vous savez, j'ai fait 3 films.
Bah oui, Fidel. C'est pour ça.
C'est un homme qui est immortel. Il est immortel, il a duré pendant...
Immortel.
Oui, immortel. Oui.
10 presidents, he survived.
Il a survécu à 10 présidents américains.
All of whom have been hostile to him, to him.
Et tous ces présidents lui ont été hostiles. Certains ont tenté même de le tuer.
He's Superman.
C'est le Superman.
Merci à nos invités Oliver Stone. Une histoire de l'Amérique, c'est sur la chaîne Planète Plus à partir de jeudi prochain à 20h45. Je signale aussi le livre Les crimes cachés des présidents aux éditions Saint-Simon. Kate Moran, Einstein on the Beach, c'est au Théâtre du Châtelet à Paris jusqu'à dimanche. Et je signale la projection, ce sera en avant-première de Goltzius et la compagnie du Pélican de Peter Greenaway. Ce sera dans le cadre des journées internationales du film sur l'art à l'Auditorium du Louvre à Paris le mercredi 29 janvier en attendant la sortie officielle en salle le 5 février. J'ai tout dit. Ça, c'était pour aujourd'hui, mais demain.
Qu'est-ce que tu dirais si je me remariais? Je la connais?
Bah non, justement, tu la connais pas. Je vais demander de passer pour te la présenter. Putain, tu vas voir. Une beauté.
Demain, une beauté, une émission théâtre, lumière et cadre avec Nils Arestrup et Guillaume Desfontaines. La session musicale, ce sera l'Exec.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Mathieu Conquet, Benoît Lagan, Xavier Martinet, Aïssatou Endoy et Elodie Royer. À la prise de son, Élise Leu et Emmanuel Morse-Duncan. À la traduction, Michel Zlotowski. À la réalisation, Thomas Beau. Et Laurent, j'invite nos auditeurs à réécouter, podcaster, télécharger et commenter cette émission sur le site franceculture.fr, ainsi qu'à rejoindre la grande famille du rendez-vous sur les réseaux sociaux.
J'adore cette idée de grande famille, d'ailleurs le mot ne vient même pas. Il est 19h54 exactement, vous écoutez France Culture, mais c'est bien.